Bonjour Constantin.
Bonjour Claire, bonjour à tous.
Bienvenue dans notre émission hebdomadaire France catholique, la revue commentée. Alors nous commençons avec la constitutionnalisation de l'avortement votée par le Congrès ce lundi 4 mars. Vous revenez sur les réactions des quelques évêques de France qui ont pris la parole avant le vote.
Oui, parce que notre journal est parti chez l'imprimeur le lundi soir. Quelques temps avant effectivement la tenue de ce vote qui a validé l'inscription de la liberté d'avoir recours à l'avortement dans la Constitution de la République française. Et il nous paraissait important d'un point de vue journalistique de voir un peu quelles avaient été les réactions épiscopales. Alors, il faut savoir que la CEF, la Conférence des évêques de France, qui réunit donc tous les évêques de l'Église en France, avait fait un communiqué pendant le week-end pour dire sa tristesse face à cette constitutionnalisation, mais on a pu constater que jusqu'à quelques heures avant le vote, eh bien, plusieurs évêques avaient de leur plume, de leur propre plume, hein, d'un point de vue personnel, avaient pris la parole pour bien donner leur avis sur cette constitutionnalisation de l'avortement. Et il nous paraissait donc important, d'un point de vue journalistique, de revenir sur ces différentes prises de parole, sur ces quelques évêques qui se sont insurgés. Alors, il y a notamment Monseigneur de Germay, qui est primat des Gaules, l'archevêque donc de la ville de Lyon, qui a fait un communiqué assez fort, déplorant eh bien que on ne pouvait plus discuter de cette question de l'avortement dans le domaine public sans être sans devenir une cible médiatique. Et il remarquait également que beaucoup de personnalités avaient déserté le combat, et puis surtout il s'inquiétait, il soulevait des interrogations. D'abord, est-ce que la liberté d'expression sur ce point serait garantie une fois la constitutionnalisation faite? Est-ce que la liberté de conscience des soignants sera garantie à long terme? Bref, tout cela poussait l'archevêque de Lyon à dire qu'il craignait que cette constitutionnalisation soit en réalité un déni de démocratie. Nous citons également la réaction de Monseigneur Michel Aupetit, qui est archevêque émérite de la ville de Paris, qui lui n'y va pas avec le dos de la cuillère, puisqu'il explique que cette décision fait de la France qui a touché le fond, je cite, un État totalitaire. Nous citons également Monseigneur Dominique Ray, qui est l'évêque du diocèse de Fréjus-Toulon, qui lui a dénoncé de son côté la dérive eugéniste et la déshumanisation que représentait cette inscription de l'avortement dans la Constitution. Et puis avec Monseigneur Ray, nous avons également cité son évêque coadjuteur, Monseigneur Touvet, qui lui aussi a sorti un communiqué avec un ton assez offensif, puisqu'il demandait où était le slogan « Il faut sauver des vies » que l'on a retrouvé, que l'on entendait beaucoup durant la crise sanitaire du Covid il y a de ça 2 ans maintenant. Où est cette injonction à sauver des vies dans ce projet de constitutionnalisation de l'avortement, demandait Monseigneur Touvet. Alors maintenant, que reste-t-il une fois que l'on a dénoncé ce projet de constitutionnalisation qui a été voté? Eh bien, c'est Monseigneur Winzer, qui est archevêque de Poitiers, qui donne des pistes. Eh bien, lui, tout simplement, il exhorte à l'espérance et à l'engagement que doit provoquer cette espérance, hein. Il cite la célèbre citation de Bernanos: l'espérance est une vertu, une détermination héroïque de l'âme, la plus haute forme de l'espérance. On voit donc que de la colère à la tristesse, eh bien, on passe à l'espérance, et de l'espérance, on passe donc à l'engagement. Voilà en tout cas le message que l'on peut tirer de ces différentes prises de parole épiscopales.
Merci beaucoup, Constantin, déjà pour toutes ces informations. Alors, nous continuons et donc nous sommes en plein carême et France catholique propose un dossier spécial sur les vertus. Alors, pourquoi en reparler aujourd'hui?
Parce que les vertus, comme on met sur la couverture de France catholique, sont la porte du salut et le temps du carême, et donc le temps par excellence du combat spirituel, et le temps durant lequel les chrétiens doivent particulièrement, c'est valable tout au long de l'année, mais particulièrement se soucier de leur salut. Assez régulièrement, sur cette antenne, les auditeurs de Radio Maria doivent m'entendre dire que c'est toujours assez amusant de parler de termes que l'on entend beaucoup, mais que l'on connaît finalement assez peu. Et je crois que les vertus font partie de ces termes habituels que l'on utilise beaucoup dans le langage courant. Mais si on se demande qu'est-ce que c'est concrètement qu'une vertu, eh bien c'est toujours un peu compliqué à définir. Et c'est l'une des raisons pour lesquelles nous voulions faire ce dossier qui, en apparence, peut paraître sur un thème assez banal, les vertus, mais en réalité, on ne sait plus très bien ce que c'est. Selon le catéchisme de l'Église catholique, la vertu, c'est tout simplement la disposition habituelle et ferme à faire le bien. Pour incarner peut-être ce sujet, on peut rappeler que traditionnellement, et même si cette liste n'est pas exhaustive, n'est pas vraiment complète parce qu'il y en a beaucoup plus, les vertus sont déclinées en deux catégories. Les vertus, ce qu'on appelle les vertus cardinales, qui sont des vertus qui peuvent être acquises par soi-même, qui sont les vertus de prudence, de justice, les vertus de force, de tempérance, et également, très important, les trois vertus dites théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, qui relèvent de la grâce, c'est-à-dire qui relèvent du don gratuit de Dieu et qu'on ne peut acquérir par soi-même. Alors, l'autre raison pour laquelle nous parlons des vertus, eh bien, c'est aussi parce que les vertus ont disparu, on va dire, de la ligne de mire catholique pendant plusieurs décennies et reviennent en force aujourd'hui. Quand je dis reviennent en force, c'est aussi bien dans les librairies que dans les travaux des théologiens. Et nous avons interviewé, pour faire cet article qui ouvre ce dossier, deux éminents spécialistes. D'un côté, le père Philippe-Marie Margelidon, qui est dominicain et qui a sorti aux éditions du Cerf, un livre qui s'appelle De quelques vertus oubliées, religion, chasteté et pénitence. Et nous avons également interviewé le père Jean-François Thomas, qui est jésuite et qui a sorti aux éditions Via Romana un livre intitulé Les vertus méditées. Et tous les deux, eh bien, essaient de comprendre un petit peu pourquoi les vertus ont disparu, et notamment à partir des années 40. Alors, première hypothèse, c'est le père Margelidon qui nous explique ça, c'est sans doute parce que, à partir de la fin de la guerre et dans les années qui ont suivi, hein, ce qu'on a appelé les Trente Glorieuses, une période de grande prospérité économique, eh bien, la société était surtout préoccupée par la notion de rendement, par la notion de vitesse, d'efficacité, statistique. Et dès lors, on comprend que, la vertu a peut-être moins le vent en poupe, puisque la vertu, ce n'est pas exactement, lié à la notion de vitesse, puisque, la vertu, comme on avait dit, c'est, quelque chose qui se travaille jour après jour, hein, quand on veut faire un effort de tempérance ou de prudence ou de force, eh bien, c'est pas quelque chose qui se fait en un claquement de doigts, c'est une affaire, de semaines, de mois, d'années, et c'est même l'effort, hein, les vertus, c'est l'effort de toute une vie. Donc ça, c'est la première hypothèse, et c'est bien dommage, nous rappellent ces deux auteurs, que les vertus aient disparu, puisque la vertu est vraiment au cœur de la foi catholique, et j'en veux pour preuve, eh bien, un fait qui vraiment démontre la chose, c'est que lorsque un dossier en béatification, en canonisation arrive à Rome, hein, pour savoir si une personne mérite d'être élevée à la gloire des autels, eh bien, il y a ce qu'on appelle l'étude de l'héroïcité des vertus, c'est-à-dire qu'on va vraiment regarder la vie des potentiels bienheureux et des potentiels saints pour savoir s'ils ont exercé très concrètement et de manière durable dans leur vie les différentes vertus que nous avons évoqué. Alors, autre hypothèse pour expliquer pourquoi les vertus ont un peu disparu pendant plusieurs décennies, eh bien, c'est tout simplement parce que les notions de salut, les notions de fin dernière, ont, elles, été un peu déclarées ringardes, hein, le bonheur, c'est le bonheur qu'il y a sur terre, le bonheur au ciel, le bonheur après la mort, c'est quelque chose d'un peu lointain, d'un peu angoissant, d'un peu mortifère. Alors, il fallait plutôt à l'époque se focaliser vraiment sur le bonheur ici-bas, sur le paradis terrestre. Or, les vertus étant liées à la notion de salut, puisque exercer les vertus prédispose le corps et l'âme, eh bien, se préparer pour le salut, eh bien, dès lors qu'il n'y a plus vraiment de salut, plus vraiment de fin dernière, on comprend qu'il n'y a plus vraiment besoin d'exercer les vertus. Et encore, je n'ai même pas parlé de l'hypothèse sur laquelle, eh bien, le salut est automatique et accordé à tout le monde, auquel cas on ne voit vraiment pas l'intérêt de se casser les pieds, à faire l'effort d'être prudent ou juste dans sa vie de tous les jours. La raison pour laquelle eh bien, tout cela revient en force, ça c'est le père Margelidon qui nous explique ça, eh bien, c'est peut-être que le nihilisme moderne qui frappe nos sociétés eh bien, fait en sorte qu'il n'y a plus que les vieilles recettes qui peuvent encore marcher, et les vieilles recettes, c'est bien la vertu. Et d'ailleurs, on voit à quel point dans le discours public, ne serait-ce qu'à travers toutes les campagnes de presse ou les articles que l'on entend sur le fait de, par exemple, de moins manger de viande, d'être sobre, de moins boire d'alcool, il y a forcément une part de ce qu'on appelle le puritanisme. Bon, sans rentrer dans le détail et sans rentrer dans l'influence anglo-saxonne qu'il peut y avoir là-dedans, il y a forcément peut-être du puritanisme, mais il y a peut-être aussi le vieux fond chrétien, le vieux fond de tempérance, de sobriété, de jeûne qui joue peut-être dans ces nouvelles tendances, dans ces nouvelles modes. Et puis, ça c'est la conclusion des deux théologiens que nous avons interviewés. Eh bien, c'est que si ça peut paraître effectivement un peu compliqué d'être vertueux, les innombrables exemples de saints que l'Église nous donne, donc de personnes qui ont été héroïques dans la pratique de leur vertu, eh bien, cela montre bien que ce n'est pas impossible d'être vertueux et que c'est même accessible à chacun d'entre nous.
Et comme vous venez de le mentionner, Constantin, vous mettez en avant une missionnaire du Sacré-Cœur, Sainte Françoise Xavier Cabrini. Alors, comment cette sainte peut-elle nous inspirer aujourd'hui?
Oui, alors c'est dans le cadre de notre page désormais hebdomadaire consacrée au Sacré-Cœur. Eh bien, comme beaucoup de saints, Saint François-Xavier Cabrini peut nous inspirer en nous montrant que même quand le sort semble s'acharner, eh bien, il faut tenir bon et que la sainteté est toujours au bout du chemin. Parce que Sainte Françoise-Xavier Cabrini, alors elle naît en s'appelant seulement Françoise Cabrini. Eh bien, elle naît en étant extrêmement faible. Elle est d'ailleurs née prématurément et elle gardera toute son enfance une condition physique extrêmement faible. Ce qui est assez beau, c'est que c'est lors de sa confirmation, vraiment lors du sacrement de la confirmation, qu'elle sent qu'elle reçoit une force supplémentaire qui lui permet de surmonter cette faiblesse, et elle reçoit en même temps que sa confirmation, eh bien, un appel très puissant à la vie religieuse. Mais avant d'être religieuse, elle décide d'être institutrice. Et au fil du temps, quand même, voilà, elle veut vraiment être religieuse, elle se décide à être missionnaire, mais là encore, sa santé est trop faible. Alors, comme elle déploie une volonté absolument énorme, à défaut d'être missionnaire, eh bien, qu'est-ce qu'elle décide? Eh bien, tout simplement, si je puis dire, elle décide de fonder un orphelinat, et puis plusieurs orphelinats par la suite. À partir de 1880, elle fonde d'ailleurs l'œuvre des sœurs missionnaires du Sacré-Cœur de Jésus, dont le but est de porter l'amour du Christ au monde entier. Et d'ailleurs, elle qui, à l'époque, n'est pas missionnaire parce qu'elle est encore en Italie, c'est à ce moment-là qu'elle rajoute Xavier à son prénom, qu'elle devient non plus Françoise, mais Françoise Xavier, en hommage à Saint François-Xavier, qui est le saint patron des missionnaires. Alors, elle ouvre de plus en plus d'orphelinats et de lieux comme ça pour les pauvres en Italie, mais toujours en elle, elle a cette volonté d'être missionnaire. Alors, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir le pape Léon XIII, elle lui demande d'être missionnaire en Asie. Réponse du pape, vous ne serez pas missionnaire en Orient, vous serez missionnaire en Occident, et puisque vous êtes italienne, eh bien, je vous envoie missionnaire aux États-Unis, puisqu'il y a à l'époque une très forte immigration italienne qui vit dans des conditions très dures. Et c'est donc pour ça qu'obéissant à Léon XIII, eh bien, Mère Cabrini, et si religieuse de son ordre, s'installe à New York en 1889, et elle explique à ses sœurs: vous êtes immolée au Sacré-Cœur de Jésus. C'est dans cette totale abnégation de soi que se trouve l'essence de la sainteté. Et vraiment, cette confiance dans le Sacré-Cœur, cette totale abnégation dans le Sacré-Cœur, c'est l'une des leçons que l'on peut retenir de la vie de Sainte Françoise-Xavier Cabrini. À noter d'ailleurs qu'elle est allée tellement loin dans l'abnégation et dans le don de soi à travers le Sacré-Cœur de Jésus que, comme beaucoup de saints, hein, on dit qu'elle meurt d'épuisement à 67 ans en 1917 dans la ville de Chicago, et elle sera canonisée par Pie XII en 1946.
Un grand merci à France catholique hein, également de nous faire redécouvrir cette belle figure de sainteté. Alors nous terminons notre revue commentée avec notre tour des sanctuaires Mario. Et nous sommes aujourd'hui à Notre-Dame de Brebières dans la Somme.
Avec une histoire qui change un tout petit peu de d'habitude, puisque d'habitude c'est souvent des jeunes femmes qui sont à l'origine de la découverte de telle ou telle statue miraculeuse. Et là, en l'occurrence, nous sommes au début du XIIe siècle et c'est un jeune berger qui fait paître ses brebis qui constate que l'une de ses brebis, eh bien, retourne le sol hein, pour se nourrir toujours au même endroit. Alors il prend une houlette et il frappe le sol pour voir ce qu'il y a à l'intérieur et il entend une voix très forte qui sort de terre et qui lui dit « Arrête, berger, tu me blesses ». Alors évidemment, le berger est surpris, il creuse quand même, il trouve une statue de la Vierge. Et évidemment, à partir de là, eh bien, le lieu va devenir très connu dans la région, une très forte dévotion mariale, un prieuré bénédictin est bâti sur le lieu de la découverte, la statue elle-même est placée dans une église et de nombreux miracles se produisent avec bien sûr de nombreuses grâces obtenues par les pèlerins. Ce qui est assez amusant dans cette histoire du sanctuaire de Notre-Dame de Brébières, c'est que le pape Léon XIII, en 1895, va ériger le sanctuaire au rang de basilique mineure. Il va demander à ce que cette ville, ce que ce lieu devienne la Lourdes du Nord, et malheureusement, avec la guerre de 14-18, hein, cette ambition va être en apparence stoppée puisque un obus va tomber sur le sanctuaire, sur le dôme qui porte une très belle statue dorée de la Vierge. Et après l'impact, eh bien, la statue va être complètement penchée, si bien qu'une légende va circuler à l'époque, un peu une sorte de superstition, puisque les gens du coin disaient le jour où la Vierge tombera, eh bien, la guerre finira. Et je vous le donne en mille. En 1918, la chapelle est anéantie complètement par les obus allemands. La statue tombe et il se trouve que c'est la dernière offensive allemande. La guerre se terminera quelque temps après et le sanctuaire sera reconstruit à l'identique après la guerre.
Un grand merci Constantin, nous sommes déjà à la fin de cette émission. Je rappelle à nos auditeurs le site de France Catholique, www.france-catholique.fr. Vous pouvez aussi suivre France Catholique sur Instagram, Facebook et Twitter. Un grand merci Constantin pour ce temps passé avec nos auditeurs.
Merci Claire, à la semaine prochaine.
Chers auditeurs, c'était votre émission France Catholique, la revue commentée. Vous pouvez réécouter cette émission podcast sur notre site internet radiomaria.fr ou notre application Radio Maria Play.